Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est parti pour un dernier instant M de la semaine.
Vous coupez ?
Non, je coupe.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il y a 22 ans, Sylvain Augier, qui faisait vraiment de la chouette télé, lance la carte au trésor sur France 3. L'émission a connu moult animateurs, puis a disparu. Mais la télévision n'aime rien autant que remettre à l'antenne ses vieilles pépites. D'ailleurs, ça marche. Les téléspectateurs aussi aiment regarder avec leurs enfants ce que eux-mêmes regardaient avant. Retour de la carte au trésor avec hélicoptère et Rose des Vents, évidemment. La recette est la même, sauf que pour l'incarner, la chaîne a choisi Cyril Ferraud, ce garçon aux allures éternellement juvéniles, qui présente déjà pas une, mais deux quotidiennes sur France 3.
L'instant M, Sonia De Villers sur France Inter.
Oui, alors l'instant M, c'est Sonia De Villers, mais c'est surtout François Audouin, mon réalisateur. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et l'émission est préparée par Anne-Cécile Perrin et Redouane Tola. Au son ce matin, nous avons Guillaume Roux. Bonjour Cyril Ferraud.
Bonjour Sonia.
Il en faut du monde pour faire une petite émission.
C'est dingue. En plus, on a commencé avec la kermesse. Je suis ravi d'être avec vous là.
Voilà, Cyril Ferraud, slam, le pilier des jeux de l'après-midi sur France 3, c'est vous. Mais aussi, personne n'y avait pensé. C'est vous, c'est
oui,
encore vous.
Oui, c'est aussi moi.
La
c'est
carte
le même
au
moi.
Trésor, mercredi soir prochain, ce sera donc encore vous. Et dès aujourd'hui sur France Inter, et pour cause, vous allez remonter très vite dans un hélicoptère pour tourner la suite. On va
dès
vous
dimanche,
expliquer.
Oui.
Voilà, tout ça. C'était pas sa semaine au mélanome. Salut, Bruno Donnet.
Bonjour à vous, jeune pépite de France Inter.
Comme chaque vendredi, on va d'abord avec Bruno, si vous voulez bien, lancer l'instant Madeleine. Et puis, vous allez nous raconter ce que vous avez repéré pour nous sur les écrans cette semaine. On joue donc. Vous m'écrivez à l'instantm@radiofrance.com. Vous me dites d'ailleurs où vous habitez, parce que si vous gagnez, moi je vous écris, mesdames, messieurs, une petite lettre et tout ça avec le cadeau dans plein d'endroits en France que je connais pas et ça m'amuse beaucoup. Donc, écoutez ces voix. Dites-moi de quelle émission de télé elles sont tirées.
Allô les publicos ? Ouais, c'est Nag. Attention ! Y'a Diva, qui est divine, y'a Josie, qui fulmine, y'a Coco, qui cocasse, y'a MC, qui décache, y'a Vanessa, c'est Jojo, y'a Bernard et Zaza.
Bon voilà, l'un
je l'ai mais je me tais,
voilà,
on est d'accord.
Absolument,
hein,
voilà,
d'accord.
Pas le droit de jouer, Cyril Ferraud qui a évidemment reconnu. C'était quoi cette émission ? L'instant M at radiofrance.com. J'attends votre nom et là d'où vous m'écrivez. Bonne chance à vous tous. Oh bah non, on avait une
y a pas de jingle.
Mais finalement, il n'y a pas de jingle.
L'instant M.
Vous avez, merci Cyril Ferraud. Vous avez une Madeleine, vous, Cyril Ferraud, vous qui êtes un enfant de la télé, qui avait biberonné très très jeune au petit écran.
C'est l'Eurovision.
Non.
Que je regardais vraiment avec mes parents. Moi, ce qui m'a donné envie de faire de la télé, c'est d'être sur le canapé.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez été jeune,
y a...
Cyril Ferraud, je rappelle que vous avez 33 ans.
Je pense que la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un moment où je vais être vieux? C'est plutôt ça.
On va voir.
Non, mais moi, j'adorais regarder la télé sur le canapé avec le plaid sur les genoux, même si c'est un peu une image pas très sympathique, mais avec mes parents, comme ça, la télé pour moi c'est un média qui rassemble la famille sur le canapé, où on discute, où on s'engueule, où on a envie de zapper de temps en temps, et l'Eurovision, commenter les chansons, regarder ça en famille, c'est vraiment des souvenirs quand j'étais petit, et je l'ai présenté quelques années après sur France 3, c'est ça qui est génial, et vraiment c'est ma Madeleine, moi, de télé.
Bon, formidable. Alors Bruno Donnet, est-ce que cette fois on envoie un petit jingle ? Toujours pas. Alors Bruno, un petit lancement. Néanmoins, avant-hier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réclamé l'interdiction des cabines de bronzage et vous avez été très surpris par la manière dont les journaux télévisés ont choisi de traiter cette information.
Savez-vous, Sonia, ce qu'est un sujet pif-paf ?
Non.
Non. Eh bien, c'est un sujet facile à réaliser, puisqu'il suffit pour le ficeler de trouver un thème clivant, comme le prélèvement des impôts à la source ou la procréation médicalement assistée, par exemple, et de donner... Pif, la parole à quelqu'un qui est pour, et paf, la parole à quelqu'un qui est contre. Ça présente l'avantage de l'équilibre, et comme ça, en plus, l'apparence de la neutralité, nos camarades DJT en raffolent. Seulement voilà, si cette petite mécanique fonctionne parfaitement bien avec des sujets qui interrogent la morale ou la sensibilité de chacun d'entre nous, bref, avec des problématiques que les journalistes résument à la question « faut-il ?», il semble infiniment scabreux de vouloir adapter ce mode de traitement à n'importe quel sujet d'actualité. Et pourtant, vous le rappeliez Sonia, mercredi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a demandé au gouvernement d'interdire les cabines de bronzage au motif que, Anne-Sophie Lapix l'a parfaitement souligné sur France 2.
Les rayons UV artificiels seraient responsables de 380 cas de mélanome, de cancer de la peau, chaque année.
Voilà, vous avez bien entendu l'info du jour. C'était donc qu'après des années de recherche, et après nombre de leurs prédécesseurs, d'éminents scientifiques venaient d'établir formellement que les cabines de bronzage provoquaient des mélanomes, c'est-à-dire des cancers gravissimes. Donc, théoriquement, après pareille révélation, il semblait totalement impossible d'aller traiter le sujet à la mode pif-paf et en le réduisant à une question du type « faut-il interdire les cabines de bronzage ?» étant entendu qu'on venait de nous démontrer que leur fréquentation rendait gravement malade. Impossible ? Eh bien, écoutez donc par quelle question a commencé le reportage du 20h de France 2.
« Faut-il interdire ces cabines de bronzage en France ?»
Voilà, alors je vous rassure, c'était pas mieux sur TF1. Le JT a d'abord pif donner la parole à un dermatologue qui foutait bien les jetons.
Les UV provoquent des modifications au niveau des cellules et ces modifications au niveau des cellules sont source de cancer.
Avant d'aller, paf, coller son micro sous le nez d'un amateur de bronzette en cabine qui nous a régalé des raisons pour lesquelles il était contre.
Et on ne pense pas aux conséquences, peut-être que dans 10-15 ans, il y aura des répercussions.
Voilà, niveau argument pas scientifique pour de rond, on était déjà bien achalandés, merci. Mais les JT ont réussi à faire encore mieux, ils sont allés offrir la parole à un certain Hervé Corlet, président du syndicat des professionnels du bronzage en cabine. Bah, comprenez voyons. Donc le type le moins objectif de la création, puisque pas du tout pressé qu'on lui retire son gagne-pain. Un garçon qui a donc pu très tranquillement balancer ça sur TF1.
En l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'y a pas de lien de causalité direct entre mélanome et bronzage en cabine.
On venait tout juste de nous expliquer rigoureusement le contraire, je le rappelle. Puis, ceci sur France 2. Attention, si vous les aimez les éléments factuels et si le cynisme vous colle de l'urticaire, éloignez-vous du poste car vous risquez une irruption carabinée.
Le bronzage en cabine en France, c'est 10 000 emplois. Et donc, appeler à l'arrêt du bronzage en cabine avec des conséquences aussi importantes, avec aussi peu d'éléments factuels et scientifiques, c'est proprement hallucinant.
Hallucinant, effectivement, on ne saurait mieux dire. Alors, peut-on, sur l'autel de l'habitude et d'une mécanique facile à mettre en œuvre, en arriver à faire challenger à la télé les conclusions irréfutables des scientifiques par le point de vue d'un type qui défend des intérêts bassement corporatistes, ou faut-il l'envoyer se faire cuire le cul dans ses cabines jusqu'à ce qu'il en ressorte rouge de honte? Eh bien, pif, je vais vous chercher un pour et un contre, et paf, je reviens la semaine prochaine. Bonne journée.
Merci Bruno Donnet. La semaine de Bruno Donnet est à réécouter sur franceinter.fr. Bravo à Pierre Etienne, il est le gagnant de la Madeleine. Cyril Ferraud, la Madeleine, c'était...
C'était les minicums.
Bravo, voilà. C'était les minicums, évidemment, les marionnettes. Bon, bref, on vous raconte pas. Messi, bien sûr, avec toutes ces figures.
Oui, il y avait Nagui dans les
90.
Marionnettes, il y avait Josiane Balasco, etc.
Exactement, exactement. Pierre Etienne, je vous offre l'histoire de la 5e République en BD, une coédition des Arènes et France Inter. C'est notre ami Thomas Legrand qui a signé cette BD et elle est formidable.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
La carte au trésor, on y va la carte
ah mais
au
grave,
trésor.
Grave, allons-y. Allez.
Bonsoir à tous, c'est un événement, la carte au trésor, le jeu mythique d'aventure de France 3 est de retour. Ensemble, nous allons survoler en hélicoptère les plus belles régions de France. Que nos deux candidats vont s'affronter ce soir, le rouge et le bleu. Leur but est de trouver un trésor caché. Tu prends le cap vers le château de la Garde.
Tout à fait.
Regarde par la fenêtre, tu vois Jean-Pierre qui a ses deux morceaux de blason?
Je vois effectivement.
Fais coucou au concours,
oui,
en bleu
je
là.
Vois.
Direction le château de la Garde, Banzai.
Je recherche le fond aux oiseaux.
Alors, nous avons le grand atelier un petit peu plus loin, c'est le musée.
D'accord, très bien.
Jean-Pierre pour Cyril.
Oui, Cyril, attends deux secondes, je suis en train de glaner des informations. Voilà. Je suis avec un monsieur.
Je vais me faire engueuler.
Allez là.
Il est là, le coffre. Allez, jette-toi sur le trésor. Allez, Jean-Pierre.
Ouais.
5 000 euros.
Allez là.
Tu vas gagner ton trésor.
Allez, un bleu, un rouge, chacun son hélico. Trois énigmes chronométrées pour mettre la main sur des indices. Une quatrième énigme, évidemment, la rose des vents. Interdiction au smartphone, parce que oui, l'époque a changé.
Oui, l'époque a changé. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone.
22
ans
après, on ne peut pas lâcher des candidats dans la nature.
Et c'est ça qui est génial, parce que ça donne une nouvelle dimension au jeu. C'est-à-dire, comment fait-on en 2018 pour se débrouiller sans GPS, sans Internet, quand on a des énigmes à résoudre?
Mais ce qui est la nouvelle dimension de tous les nouveaux jeux d'aventure, c'est-à-dire ramener finalement des êtres humains au béaba de l'intuition, des capacités physiques.
Et de leur connaissance, et de leur culture, et de leur connaissance du patrimoine local.
Oui,
c'est
mais
ça
je veux dire, quand on isole des types sur des îles désertes, en réalité, c'est pareil. On les extrait de tout un tas d'apanages scientifiques.
Oui, mais ils n'ont rien à chercher. En fait, si vous parlez de Koh-Lanta, par exemple, il n'y a pas de recherche culturelle, il n'y a pas d'énigme à résoudre. Alors que dans la carte au trésor, on a vraiment besoin de connaître la région et de connaître des aspects parfois méconnus du patrimoine pour s'en sortir de nos énigmes. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait qu'on met vraiment aussi en valeur les gens, les habitants des régions qu'on survole et des départements qui donneraient, mais qui vendraient leurs enfants pour aider les candidats à un moment.
Allons bon. Alors je me suis demandé, moi, qui était le personnage principal de ce programme. Oui. Je pense qu'il y a 22 ans, en effet, c'était les gens dans les régions. Je pense que petit à petit, c'est le patrimoine. Ce sont les régions elles-mêmes qui sont devenues le protagoniste, finalement. Ce sont les paysages de France.
Oui, sachant qu'il y a 10 ans, quand l'émission s'est arrêtée, on était en 4 tiers. On était en basse définition. Aujourd'hui, on tourne en ultra haute définition avec des caméras de cinéma.
4 tiers, hein, c'est un format.
4 tiers, c'était le format de la télé d'avant, avec des images, on s'en rend pas compte, mais qui à l'époque étaient quand même toutes pourries, parce que le grain de télé était assez moche, quoi, voilà, avec nos antennes râteaux. Aujourd'hui, moi, c'est aussi ce qui m'a donné envie de refaire cette émission. C'est que c'est une émission qui est là pour sublimer nos régions, sublimer notre patrimoine. Donc, il fallait la relancer avec tous les moyens technologiques qui ont évolué depuis une dizaine d'années.
Et on ne pouvait pas renoncer à l'hélicoptère.
Ah bah non.
Même quand on est Adventure Line Productions, qu'on produit la carte au trésor.
Ils ne sont pas producteurs. Non. Alors ça, il y a une petite subtilité. Le format de la carte au trésor appartient à Adventure Line Productions. Et la production exécutive a été donnée à une autre société de production.
Voilà.
Comme ça, il n'y a pas débat.
Il n'y a pas débat. Et en même temps, la mésaventure d'Adventure Line Productions, c'est-à-dire cet accident dropped avec la collusion dans le ciel argentin de deux hélicos, 10 morts il y a 2 ou 3 ans. Voilà, des procès qui sont toujours en cours, des procès en responsabilité. Ça, pour le coup, c'est dans toutes les mémoires. Donc, voilà.
On est d'accord. Après, la carte au trésor a existé pendant 16 ans sur France 3 sans aucun accident.
Non.
Depuis dropped, que vous citez, qui, encore une fois, est un accident dramatique, le Tour de France continue à utiliser des hélicos pour montrer la beauté du paysage. Et la carte au trésor, j'ai envie de vous dire, j'ai entendu ça, j'ai entendu aussi l'écologie. C'est pas une émission, c'est pas un jeu où on met des gens dans des hélicoptères juste pour la course. Ces hélicos, on les utilise pour survoler ces paysages magnifiques et vraiment pour offrir aux téléspectateurs, pour leur mettre plein les yeux, voilà, tout au long de l'émission. C'est pas juste une course gratuite, vous voyez, pour polluer ou pour utiliser un engin qui est dangereux.
Mais surtout avec des conditions de sécurité, ai-je lu cher, absolument drastiques. C'est quand même la première émission en France qui se fait avec la validation de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Vous définissez entre 40 et 70 lieux d'atterrissage, y compris en centre-ville, et il faut que ce soit sécurisé par les forces de l'ordre.
Par la police, exactement.
Voilà, des pilotes chevronnés, une interdiction absolue de décoller en même temps. Là, je parle des deux hélicoptères.
Alors, on est 4 hélicos, d'ailleurs. Ouais. Hein, voilà, on est 4 hélicos, on ne peut pas décoller en même temps. On a obligation de voler en étage.
C'est-à-dire
que deux, pour justement éviter une quelconque collusion, on ne décolle pas en même temps. Mmh. Et l'hélico rouge vole à une certaine hauteur, le bleu un peu au-dessus, le mien encore au-dessus. Et l'hélicoptère relais, qui est notre régie géante qui fait toutes les transmissions radio, est beaucoup plus haut que tout le monde, de façon à voler dans
des conditions
de sécurité.
Et quand vous êtes en Ariège, vous bloquez au sol les hélicoptères d'une base militaire locale pour justement qu'il n'y ait aucun risque d'interférence.
Exactement, ouais, parce que parfois on peut survoler des zones militaires, donc c'est une logistique énorme cette émission.
Énorme.
Énormissime, et tant mieux, parce qu'elle a fonctionné quand on l'a relancée. Moi j'y croyais comme un dingue, j'avais super envie de la relancer. Emmanuel Garcia, qui est le patron des Jeux de France 3 aussi, et on est allés tous les deux, main dans la main, j'ai envie de dire, défendre notre idée à Dana Astier, la directrice de France 3.
Ex-directrice
de France 3, que j'embrasse parce que je sais qu'elle nous écoute. Et surtout, elle nous a fait confiance et ça a marché.
Et vous vous mettez, et ça c'est assez intéressant parce qu'on a entendu tout à l'heure Jean-Pierre, le candidat qui vous remet à sa place.
Oui.
Non mais laissez-moi finir.
Voilà. Était formidable.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pilotez à la voix et vous pilotez au son.
C'est une émission
quand
de radio.
Je dis, voilà, c'est ça.
Complètement. C'est ça, parce que même quand je suis en hélico, en stationnaire, au-dessus des candidats qui sont au sol, je les vois pas parce qu'entre le tableau de bord, l'hélico qui bouge pour faire les plans, en fait, je ne les vois pas. Donc tout se passe au son et on ressent même encore plus les émotions. C'est ça qui est génial. Par exemple, quand quand un candidat gagne ou quand il perd, voilà, et qu'il faut lui faire sortir une certaine émotion. Je fais le même métier que vous faites vous tous les matins. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas l'image pour m'aider et je dois être super à l'écoute de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils ressentent, de la façon dont ils réagissent.
C'est
et ça,
c'est
magique.
Une sorte de grand téléphone sonne.
Ouais, mais c'est
le
génial.
Le Koh-Lanta du téléphone sonne.
Je vous jure que c'est génial à faire, vraiment.
On imagine bien. Et puis surtout, d'un seul coup, vous bougez énormément, alors que dans les jeux de l'après-midi, ben oui, vous êtes forcément un animateur assez statique. Allez, slam.
Et ça slam. Francis, le super champion. Comment ça va ?
Ça va.
Qui aiguise les appétits.
Enviable.
Allez hop, 10 points. Et slam. Oh Isabelle.
Et le 2, poitrail.
La définition, c'était large gorge. Le poitrail, bravo Isabelle. Elle a slamé au bon moment. 37 à 45, Francis en finale pour la 12e fois en ce dimanche.
D'ailleurs, c'est très intéressant d'entendre un extrait de jeu au casque ici dans un studio radio parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un énorme exercice vocal d'animer un jeu.
Et 7 émissions par jour, 6 ou 7 émissions par jour, je peux vous dire qu'il faut que la voix tienne le coup.
C'est ça.
On commence à tourner à 9h30, 10h du matin. Donc
mais en fait, vous jouez sur des variations de voix, de rythme, de ton. Vous montez dans les aigus, vous chantez, vous rigolez, tout est à la voix.
Et je vais même vous dire, j'ai un retour dans les oreilles, j'ai demandé une oreillette, non pas l'oreillette classique qu'ont les animateurs, mais vraiment des ear monitors, c'est-à-dire une oreillette de chanteur pour pouvoir justement varier ma voix comme ça, déjà ne pas l'abîmer, et puis pouvoir jouer sur les graves, les aigus, etc. Parce que la voix, c'est hyper important quand on présente un jeu pour mettre de la dynamique, pour mettre de l'enjeu et de temps en temps aussi pour laisser exploser sa joie. Slam, ça fait 10 ans.
Oui.
Ça sera bientôt la 10e année.
Quand je disais un pilier de France 3, un pilier de France 3 et qui ne cesse de progresser. C'est une sorte de grand mot croisé pour ceux qui
l'ont
jamais regardé.
Exactement, grille géante de mots croisés avec trois candidats qui s'affrontent tous les jours. Quand on a lancé l'émission, j'avais 23 ans. Donc c'était un double pari.
Non, mais attendez, c'est absolument dingue. Moi, j'ai lu un papier de 2011. C'était déjà, il y a déjà une plombe. Vous fêtiez déjà la 500e de Slam.
Ouais.
Et à l'époque, vous étiez, c'était écrit dans Le Parisien, l'atout jeunesse de France 3. Ce qui est drôle, c'est qu'en 2018, vous l'êtes toujours.
Mais je crois qu'il n'y a pas d'animateur plus jeune que moi sur France Télévisions, en fait.
Bah,
si
en
vous
fait,
regardez.
Fanny Agostini qui a repris Thalassa.
J'ai 33 ans, elle a quel âge ?
30 ans.
Ah, elle est plus jeune que moi.
Voilà.
Ah.
Voilà.
Et paf !
Et paf ! Il y a eu un pif et il y a eu paf. Non, mais c'est quand même extrêmement intéressant, l'âge des animateurs, parce que Camille Combal rajeunit TF1, il en a 37. Daphné Burki rajeunit France 2, elle en a 38. Donc c'est quasi des louveteaux, en fait, pour les deux premiers chaîne de France. Et oui, les autres sont beaucoup, beaucoup plus âgés. Hanouna et Barthès, eux, ils ont largement passé les 40 ans. Vous avez démarré à 23 ans. Vous êtes comme Jean-Luc Delarue. Quoi.
J'ai démarré en fait à 18 ans sur Disney Channel. Mon premier job d'animateur, c'était 18 ans. J'ai présenté le loto à 20 ans sur France 2 et c'est comme ça
qu'on
m'a proposé
ça. Mais c'est une anomalie en réalité dans le PAF.
C'est vrai. En fait, si vous réfléchissez, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas chouette aussi de laisser la place de temps en temps à des gens un peu plus jeunes, à des gens qui savent faire aussi leur métier ?
C'est pourquoi les animateurs télé, pourquoi les visages de la télévision sont si rarement aussi jeunes que vous ?
Déjà parce que je pense qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Je pense que Michel Drucker, Patrick Sébastien, ils ont leur place encore aujourd'hui. Ils font de chouettes émissions qui sont toujours aimées des téléspectateurs.
Ouais.
Et en même temps, d'avoir Michel Drucker et Patrick Sébastien, ça n'empêche pas d'avoir Cyril Ferraud, d'avoir Camille Combal.
Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est que Michel Drucker, il a vieilli avec son public, le public a vieilli avec lui.
Ouais.
Sauf que vous démontrez qu'on peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins que son public.
Et surtout, de faire venir, parce que sur France 3, c'était ça le défi, c'était non seulement de sécuriser, enfin de continuer à amuser les plus de 60 ans, et de faire venir les plus jeunes, de faire venir les mamans, de faire venir les ménagères.
C'est là où
sur
ça
les
progresse
chaînes.
Les chiffres.
Évidemment, clairement. Et de faire venir, alors ça moi je n'y croyais pas au début, mais de faire venir les gamins, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens, qui sont contents de venir regarder un jeu intelligent sur France 3, plutôt qu'aller
qui
voir les anges de la télé-réalité. Qui jouent au mot
alors
croisé.
Alors que pendant ce temps-là, ça bastonne sur W9.
Et qui peut-être aime aussi regarder une émission qui est présentée par quelqu'un qui pourrait être leur grand frère, quoi. Ou leur cousin, etc. Donc j'espère que mon âge participe aussi à ça, à faire venir des gens qui ne seraient pas venus comme ça. Et quand France 3 m'a confié les rênes des primes de spectacles vivants, par exemple, que je suis très fier de présenter, le Festival Interceltique de Lorient, Musique
énorme
en fête,
succès.
Au Corégie d'Orange,
le
Cirque de Monte-Carlo, on a aussi fait venir un nouveau public. Voilà. Et ça, c'est ma fierté.
Voilà. Et moi, je pense qu'il y a un pacte faustien des animateurs de France 3, c'est-à-dire que parler aux vieux fait qu'on soi-même, on ne vieillit pas. Donc je veux vous prédis un avenir à la Laurent Romeschko, c'est-à-dire que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous aurez toujours le même visage.
C'est vrai.
La carte au trésor, c'est mercredi soir. Bonjour Ali Rebéi.
Ça fait quoi de bosser à France Inter?
Ça nous crame complètement. On est très en retard.
Allez, pourquoi aller au musée nous fait du bien? Dites-nous pourquoi visiter un musée a des vertus thérapeutiques. Quels sont les tableaux, les sculptures qui ont changé votre vie? Quels sont les musées qui vous émerveillent? Encore et toujours, 01 45 24 7000.